VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Politico Mali, le Premier ministre Boubou Cissé continue sa visite dans le nord du pays. Le chef du gouvernement et sa délégation sont depuis hier soir à Kidal, ville symbole du rétablissement de l'autorité de l'État malien dans la région. Les visiteurs ont commencé leur tournée régionale par la localité de Tessalit. De Kidal, le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
En se rendant dans la région de Kidal, Boubou Cissé dit venir écouter les populations afin de trouver des solutions à leurs préoccupations.
Et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui dans la région de Kidal. Cette visite dans la région de Kidal, ici à Tessalit, s'inscrit aussi dans notre ferme volonté et engagement de faire en sorte que l'accord pour la paix et la réconciliation puisse être non seulement mis en œuvre, ça puisse être le cas de façon diligente et pour le bonheur des populations.
Après l'étape de Tessalit, le Premier ministre et sa délégation sont arrivés à Kidal. Visite sur la notabilité et installation au niveau du gouvernorat de la ville. La jeunesse donne son avis par rapport à la situation de Kidal.
Les services sociaux de base, c'est un problème crucial ici à Kidal. On a un problème d'électricité, de l'eau et surtout de l'éducation.
Bénéficier de tout ce qu'un Malien a comme droit.
Le même droit qu'a les Maliens de Kidal, c'est le même droit qu'un Malien de Kidal doit avoir.
Cette deuxième journée de la visite du Premier ministre Boubou Cissé va s'articuler autour de la rencontre avec l'armée reconstituée au camp 1, la rencontre avec les chefs de mouvement signataires de l'accord d'Alger et les forces vives de la ville de Kidal. Kidal, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Politique en Côte d'Ivoire maintenant, la révision de la constitution annoncée fin 2019 par le président Alassane Ouattara sera proposée au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, réunie en congrès à Yamoussoukro le 17 mars. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Le président ivoirien n'a pas encore dévoilé les modifications qu'il compte présenter vendredi lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Il pourrait toutefois les annoncer aujourd'hui pendant son discours annuel sur l'état de la nation devant le Congrès. Le calendrier prévoit aussi une modification de la loi électorale qui devrait être présentée le 28 mars devant l'Assemblée nationale. Une fois présenté au conseil, le texte sera soumis au vote le 17 mars par les deux chambres réunies. Le Congrès ivoirien doit valider toute modification de la constitution à une majorité des deux tiers et à défaut tenir un référendum. La coalition de M. Ouattara dispose d'une majorité écrasante dans les deux chambres. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été élu en 2010 puis réélu en 2015. Il laisse planer le doute sur une possible candidature à un troisième mandat. L'opposition critique toute révision. Le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié parle de tripatouillage et l'ancien premier ministre Guillaume Soro, actuellement en exil, l'a jugé inacceptable.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, est dans le collimateur de Washington. Le département d'État américain offre une récompense pouvant aller jusqu'à 7 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA, pour des informations pouvant conduire à son arrestation. Les explications de Gilbert Tamba à Abuja, au Nigeria.
Ce n'est pas la première fois que les États-Unis offrent des récompenses pour l'arrestation du chef du groupe Boko Haram. En 2013, l'administration de l'ex-président Barack Obama avait promis la même récompense. La tête de Shekau est à nouveau mise à prix, mais il est difficile de dire où se trouve l'homme le plus recherché du Nigeria, encore moins savoir s'il est encore vivant. Il a déjà été annoncé mort à plusieurs reprises, mais est souvent réparu dans des vidéos comme pour narguer les pouvoirs en place. Aboubakar Shekau a pris la tête du groupe peu après le meurtre de Mohamed Yusuf, fondateur de Boko Haram, tué par l'armée nigériane en septembre 2009 à Maïdougouri, en même temps que plusieurs de ses fidèles. Le mois dernier, Shekau a menacé le président Muhammadu Buhari de ne plus venir dans l'état de Borno suite au massacre de voyageurs dans la ville d'Anou. Depuis le début de l'insurrection djihadiste, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et au moins 2 millions de personnes ont fui leur domicile. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Relations États-Unis-Soudan. La Banque centrale du Soudan a annoncé mercredi que les États-Unis ont informé Khartoum de la levée de sanctions américaines qui frappaient 157 entreprises soudanaises. Le point avec John Lyndon.
Le gouverneur de la Banque centrale, Badreddin Abdelrahim, dit avoir reçu une notification de la décision américaine via le ministère soudanais des Affaires étrangères. La levée de ces sanctions signifie que les entreprises soudanaises concernées peuvent désormais avoir des relations normales à l'international. Il s'agit d'établissements bancaires qui ne seront plus soumis aux restrictions sur les transferts et les opérations avec l'étranger. Les relations entre Washington et Khartoum se sont détériorées peu après l'arrivée au pouvoir de M. Omar el-Béchir lors d'un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. Depuis, les États-Unis ont multiplié les sanctions économiques contre le Soudan, inscrit sur la liste noire des États soutenant le terrorisme depuis 1993. Washington a finalement levé ses sanctions en octobre 2017, tout en maintenant le Soudan sur la liste noire. Khartoum a annoncé début février que les États-Unis ont invité le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, à se rendre en visite officielle à Washington.
Ebola en République démocratique du Congo, la dernière patiente recevant des soins pour combattre la fièvre hémorragique est sortie mardi du centre de traitement d'Ebola à Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Quelle est la signification de ce développement? Eddy Sango a posé la question au coordonnateur de la lutte contre Ebola, le docteur Jean-Jacques Mouyembe.
Le dernier malade est sorti donc du CTE au 3 mars et il a été testé négatif le 2 mars. Cela veut dire que maintenant nous devons faire le compte à rebours qui commence donc le 2 mars. Nous devons continuer la surveillance et attendre jusqu'aux 42 jours. Si vous faites des calculs, les 42 jours, donc ce sera le 12 avril. C'est seulement le 12 avril. Si nous n'avons pas d'autres incidents, le 12 avril, nous allons déclarer, bon, le ministre de la Santé de la RDC, l'OMS, vont donc déclarer la fin de cette épidémie d'Ebola.
Les 42 jours sont comptés à partir de la sortie d'hôpital et ce n'est pas à partir du dernier cas enregistré, c'est-à-dire les malades qui se présentent à l'hôpital.
Donc à partir du jour où les malades n'est plus contagieux, ne peut plus contaminer. C'est ce jour-là, nous comptons à partir de ce jour-là. Donc, à partir du dernier test qui montre que le malade n'est plus contagieux.
Quelles sont les assurances que l'on peut avoir dans la mesure où on est dans un coin où il y a insécurité, où le déplacement des gens est difficile parfois et on peut avoir des malades dans des coins reculés, dans des villages?
Non, disons que l'assurance que nous avons, c'est d'abord les contacts. Parce que nous devons suivre les contacts. Il y avait plus de 500 contacts et maintenant, nous restons avec moins de 30 contacts. Ce qui veut dire que si ces contacts ont tous accompli les 21 jours de suivi, et là nous sommes plus ou moins sûrs qu'il n'y aura plus d'autres cas. Bon, comme vous dites là, les surprises sont toujours là. Nous sommes vraiment préparés. S'il y a des surprises, bon, écoutez, on continue la lutte. Mais pour le moment, il y a donc ce dernier malade qui est sorti. Et puis, nous avons encore donc 42 jours à suivre. Donc, si au bout de ces 42 jours, nous n'avons plus de cas ou de contacts à suivre, nous pouvons déclarer dans la fin de l'épidémie.
Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que les centres de traitement resteront en place ou on va en réduire le nombre? Qu'est-ce qui va se passer?
Non, les centres de traitement restent en place. Les équipes aussi restent en place. Bien sûr, nous allons procéder à la réduction du nombre d'effectifs.
Et nous apprenons que certains expatriés ont commencé à partir déjà.
Je pense qu'il ne faut pas alourdir, n'est-ce pas, les équipes. Si la charge de travail diminue, ça ne sert à rien de garder un nombre important, n'est-ce pas, de participants, donc de travailleurs. Nous sommes en train donc de diminuer progressivement.
Les Congo, la RDC, n'est pas encore touchée par le coronavirus, mais est-ce que les mêmes structures resteront pour prévenir?
Les mesures de prévention sont les mêmes. Donc nous pouvons dire que la RDC est mieux préparée. Notre point faible, c'est les structures de soins, mais sur la surveillance et la confirmation du diagnostic au laboratoire, là vraiment nous sommes prêts.
Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la lutte anti-Ebola en République démocratique du Congo. Et pour terminer, conflit en Afghanistan, la Cour pénale internationale a autorisé en appel ce jeudi l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le pays, y compris les exactions qui auraient été commises par des soldats américains. Cet arrêt annule la décision prise en première instance. Les juges de la CPI avaient alors refusé d'autoriser l'ouverture d'une enquête sur de tels crimes en Afghanistan, estimant que cela ne servirait pas les intérêts de la justice. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.